Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.
En septembre 1973, dans l'émission Les dossiers de l'écran, Jean-Louis Lévy se souvenait de son grand-père, le capitaine Dreyfus.
Physiquement, c'est vraiment un souvenir d'enfant, car ça m'avait beaucoup frappé. Il avait un regard bleu, un regard de myope, un regard profond et presque désarmé, un regard tendre qui m'avait tellement frappé que, enfant, c'est un de mes souvenirs, je me demandais comment on pouvait soupçonner de trahison un homme qui avait de tels yeux.
En octobre 1894, dans les yeux bleus du capitaine Dreyfus, les officiers de l'état-major, eux, ont plutôt perçu le regard d'un coupable idéal. Et cette suspicion précipitée marque le début de l'affaire.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
l'affaire Dreyfus durera 12 ans. C'est le prototype de l'erreur judiciaire. Et on y puise deux enseignements. Le premier, c'est qu'il est bien facile de se tromper. Et le second, c'est que lorsqu'on s'est trompé, il est bien difficile de revenir en arrière et de reconnaître son erreur.
On a souvent coutume de lire ou d'entendre que l'affaire Dreyfus est une erreur judiciaire. Or, affirmons tout de suite que c'est faux. Ce n'est pas une erreur judiciaire, car cela sous-entendrait qu'en 1894, la justice militaire se serait simplement trompée de bonne foi.
Le premier conseil de guerre permanent de Paris a rendu le jugement suivant.
Mal fagoté et bâclé, l'instruction judiciaire aurait donc conduit les magistrats sur le chemin d'une simple erreur de jugement.
Coupable à l'unanimité.
Mais lorsqu'on ausculte le dossier Dreyfus, on s'aperçoit aussitôt qu'il s'agit plutôt d'une machination et d'un acharnement. Alors, en quoi dès l'automne 1894 sommes-nous bel et bien devant un crime d'État ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce nouvel épisode.
Personne ne connaissait Dreyfus. Les uns étaient convaincus qu'il était coupable, les autres devinaient qu'il était innocent, mais aucun d'eux ne l'avait vu jamais.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Alfred Dreyfus, le combat de la République. Deuxième épisode, ce maudit bordereau.
Vous vous souvenez de l'affaire Dreyfus ?
Ah, l'affaire Dreyfus.
Ça a été un coup de tonnerre.
Un drame dans la vie des Français.
J'accuse.
On allait les uns contre les autres se battre à coups de poing.
L'affaire Dreyfus, on s'y battait pour une idée au-dessus de l'homme.
J'accuse.
Il représentait la justice, la vérité, l'innocent condamné.
Je suis innocent.
Parti de Paris,
erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus.
Le récit débute en juillet 1894 à Houlgate, sur la côte normande.
Mais quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte, de voir ces paysages.
Cet été-là, le capitaine Dreyfus y retrouve sa femme et leurs deux enfants tous les week-ends dans une maison cossue du bord de mer.
Les enfants !
Une vie douce et bourgeoise dans une France en pleine mutation et au sein de laquelle Alfred Dreyfus compte bien s'épanouir. Mais au même moment, en juillet 1894, un commandant de l'armée française se rapproche de l'ambassade d'Allemagne.
Faites entrer le comte Esterházy.
Le commandant Ferdinand Esterházy vient rendre visite au commandant Maximilian von Schwarzkoppen, diplomate et attaché militaire allemand à Paris, dans un but bien précis.
La nécessité m'oblige à une démarche méprisable, j'en conviens. Mais je me dois de préserver ma famille de la ruine.
Alors, ne ménageons aucun suspense. Le véritable traître dans l'affaire Dreyfus, c'est bien lui, le commandant Esterházy. Il vient vendre des informations aux Allemands et il suscite la curiosité du commandant Schwarzkoppen.
Et que savez-vous de l'artillerie française? Où en sont les études du nouveau canon de 75?
Ah, colonel, il me faut 2000 francs par mois.
Bah, jamais de la vie. Nous ne payons qu'à la pièce, selon la valeur du renseignement.
Alors, commandant Esterhazy...
Au revoir, comte.
...est un officier sorti du rang, donc qui est en régiment, qui n'est pas à l'état-major.
Vincent Duclerc, historien et biographe d'Alfred Dreyfus.
Qui est corrompu, il est toujours en quête d'argent, il a des pratiques de proxénète. C'est donc un personnage extrêmement douteux et... Schwarzkoppen n'est pas très intéressé par le profil d'Esterhazy, hein, qui n'est pas à l'état-major, qui n'est pas artilleur, mais voilà, se laisse convaincre et Esterhazy donc lui envoie une, lui dépose une série de documents qui sont peu intéressants parce que Esterhazy n'a pas accès. De fait, je veux dire aux documents les plus importants qui sont à l'état-major ou au service de l'artillerie.
Donc. Durant l'été 1894, pour éponger ses dettes, le traître Esterhazy fait parvenir aux Allemands plusieurs documents militaires, dont on trouve la liste sur un bordereau. C'est-à-dire...
Par définition, un bordereau, c'est un document d'accompagnement qui liste un certain nombre de documents qui sont donnés.
Philippe Auriol, historien.
Et ces documents n'ont pas tellement d'importance, parce que la plupart sont connus, soit parce qu'ils ont été publiés, soit parce qu'ils ont été montrés. Donc il n'y a pas un secret d'État absolument incroyable que le bordereau va révéler.
Ce bordereau, qui va sceller le destin du capitaine Dreyfus, le commandant Schwarzkoppen y accorde pour le moment peu d'importance.
Oh pardon.
Je vous laisse faire le ménage. Au revoir, Madame Bastien.
Il ignore alors qu'il est sous le regard de sa femme de ménage à l'ambassade, Madame Bastien, qui est au service du contre-espionnage français.
À voir ce qu'elle a récolté aujourd'hui.
Ce bordereau est déchiré en petits morceaux par Schwarzkoppen. Ces morceaux sont livrés par Madame Bastien au lieutenant-colonel Henry, qui recolle les morceaux et qui donc constate, selon lui, l'existence d'un grand réseau d'espionnage affectant l'armée française, au profit donc de l'Allemagne.
Écoutez ça.
Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. 1. Une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. 2. Une note sur les troupes de couverture.
Le réseau de contre-espionnage mis en place par l'armée française pour surveiller les Allemands et pour lequel travaille Marie Bastien est surnommée la voie ordinaire. Et c'est donc par cette voie ordinaire qu'est livré au commandant Henry vers le 25 septembre 1894 ce maudit bordereau. Et devant cette preuve de trahison anonyme, puisqu'elle ne porte pas de signature, l'état-major français vacille.
Un traître parmi nous. C'est arrivé par la voie ordinaire ?
Oui, mon colonel.
Il faut prévenir immédiatement le ministre.
Et là, effectivement, la machine va se mettre en route. Et la machine va se mettre en route aussi, pourquoi ? Parce que quand le général Gons, qui est le sous-chef d'état-major, en est prévenu, et le général de Boisdeff, qui est le chef d'état-major, ça va être la panique dans la maison. Et là, tout le monde regarde tout le monde en le suspectant d'être le possible traître. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver de qui il s'agit. Et là intervient la personnalité du ministre de la guerre de l'époque qui s'appelle le général Mercier. Le général Mercier, qui est un républicain, qui est laïque, qui est un officier moderniste aussi, puisque lui-même est polytechnicien, est quelqu'un qui est détesté. Dans les journaux, il est attaqué pratiquement quotidiennement, avec des mots qui sont vraiment terribles. On le considère comme un guignol, comme un bouffon, on l'appelle le ramolo de la guerre. Voilà, il est attaqué tout le temps. Et quand arrive ce papier, c'est la panique pour lui. C'est la panique pourquoi ? Parce que il a une vraie ambition, il veut devenir président de la République. Il se présentera d'ailleurs, après l'affaire Dreyfus, où il aura une voix. C'est l'époque où l'élection du président de la République n'est pas au suffrage universel, mais c'est le Sénat plus les députés qui votent. Il sait en revanche que si jamais il arrive à trouver le traître dont on a maintenant l'écriture, il y a une sorte de voie royale qui va s'ouvrir et qui va le mener directement au palais de l'Élysée. Donc en fait, il convoque ses subordonnés en leur disant « cherchez, trouvez ». Et là, il faut chercher. Et il faut trouver. Donc en fait, on se met à chercher à toute vitesse.
Chercher, trouver, dans les meilleurs délais.
Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va mener l'enquête en dépit du bon sens. C'est-à-dire que la première chose qu'on aurait dû faire, c'est essayer déjà de mener une véritable enquête, en essayant de voir qui pouvait être suspect et d'essayer peut-être de filer ces suspects, etc. Bon, ce ne sera pas fait. Enfin voilà, c'est assez curieux la façon dont c'est mené, et on essaye de trouver à qui appartient cette écriture. Et en fait, on cherche, et là va intervenir un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est absolument passionnant, qui s'appelle le commandant Albert Bertin Moureau. Il a eu Dreyfus sous ses ordres, il n'en voulait pas. Et il n'en voulait pas, pourquoi ? Parce qu'il est juif. Et Albert Bertin Moureau déteste Dreyfus. Et quand il regarde les dossiers, tout de suite, son attention est attirée sur le capitaine Dreyfus, parce qu'il le déteste, parce que c'est un juif, parce qu'il a eu sous ses ordres et que c'est le seul à lui avoir fait un mauvais rapport en disant qu'il n'avait pas sa place dans l'armée, qu'il n'avait pas sa place à l'état-major, etc. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ce monsieur Albert Bertin Moureau a une maman, mais avoir une maman, c'est pas exceptionnel, mais sa maman s'appelle Albertine Dreyfus. Ils ne sont pas de la même famille, mais en fait, lui est d'une famille juive convertie. Dans un milieu qui est plutôt antisémite, il a certainement pas envie que ça se sache, et il est dans la surenchère perpétuelle. Donc en fait, ce juif, cet israélite, comme on disait à l'époque, qui sans doute lui renvoie quelque chose qu'il n'a pas envie de voir, devient pour lui absolument terrible. Et donc il attire l'attention sur ce Dreyfus. Il en parle à son chef qui vient d'arriver, qui s'appelle le lieutenant-colonel Daboville, qui lui aussi fait une petite expertise en étant absolument persuadé que l'écriture de Dreyfus est la même que celle du bordereau, et l'affaire est quasiment réglée. Voilà, donc on a trouvé le traître.
Monsieur le ministre, celui-ci. Dreyfus, capitaine Dreyfus. En stage à l'état-major.
Ce nom me dit quelque chose. Un Alsacien, n'est-ce pas ?
Un artilleur. Alsacien. Et...
Eh ?
Juif, mon général.
Et ce qui est intéressant, c'est que on parle d'erreur judiciaire, mais c'est pas une erreur judiciaire. Dès le début, en fait, c'est un crime d'État. C'est-à-dire que dès le début, en fait, tout le monde, ou presque, peut-être pas Mercier encore à ce moment-là, mais Mercier, on va lui donner ce qu'il a envie d'avoir. On a un traître, on lui donne un traître, il a son traître, il est heureux, et c'est tout ce qu'il demande. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui colle parfaitement, et même si, en fait, Dreyfus n'a pas été désigné parce qu'il était juif, le fait qu'il fût juif est quelque chose qui est très pratique parce que ça permet aussi d'arranger tout le monde.
La France du scandale de Panama a plus que jamais besoin d'une armée saine, racialement pure. Les officiers juifs sont des traîtres en puissance parce que ce seront toujours des étrangers.
Dans cette atmosphère de panique, les officiers se persuadent que l'écriture du bordereau est bien celle du capitaine Dreyfus, qu'il désigne comme un espion juif. Alors, que nous révèle cette accusation arbitraire sur l'antisémitisme chez les officiers supérieurs de l'armée française ?
Je pense qu'il est très prégnant. Alors, pour différentes raisons, mais qui renvoient d'ailleurs à la fois au contexte des années 1880-90 et d'autre part à leur culture personnelle.
Xavier Boniface est historien.
D'abord, comme un certain nombre de ces officiers sont catholiques, il y a ce qu'on appelait l'anti-judaïsme traditionnel, d'une haine du juif pour des raisons religieuses, peuple déicide, etc. Et puis, il y a, mais c'est vrai aussi pour d'autres catégories de personnes en France qui ne sont pas seulement des militaires, le rejet de la République et en particulier quelques ministres ou députés juifs qui soutiennent la République, je pense notamment à Naquet, qui, en 1884, fait adopter la loi sur le divorce, et voilà, c'est la fin de la famille, enfin voilà, il est extrêmement vilipendé. Et puis, il y a aussi un antisémitisme, je dirais, un peu d'origine économique, qui est lié au krach de l'Union Générale, qui est une banque qui était soutenue par des capitaux de familles catholiques, et qui s'effondre en 1882, à la suite notamment d'attaques de la banque Rothschild. Et donc ça a suscité un énorme antisémitisme de la part de certains milieux catholiques. En réalité, cette banque d'Union Générale était très mal gérée. Le roman de Zola, L'Argent, raconte cette histoire. Mais cette banque était très mal gérée et Rothschild a compris qu'il fallait absolument faire place nette parce que si cette banque continuait à gérer comme ça, elle risquait d'infester toute l'économie et tout le système financier français. Donc c'est avec raison qu'il a fait stopper cette action de la banque d'Union Générale, mais ça a été très mal perçu. Et ça a contribué aussi à nourrir cet antisémitisme. C'est aussi le moment où Drumont lance son journal La Libre Parole et son pamphlet et son livre La France juive, qui contribue aussi à développer cet antisémitisme.
Édouard Drumont dans La France juive, 1886. Le seul auquel la Révolution française ait profité est le juif. Tout vient du juif. Tout revient au juif.
Capitaine Meyer, en tant qu'offensé, vous avez le choix des armes. Prenez votre place.
Il y a aussi chez certains militaires des duels avec des juifs. On en a quelques exemples au début des années 1890. 10. Voilà, il y a une imprégnation,
monsieur le docteur, je vous prie,
de cet anti-judaïsme et de cet antisémitisme dans les élites militaires, mais comme dans une partie d'ailleurs de l'aristocratie, voire de la bourgeoisie française.
Le capitaine Meyer est mort.
Je m'appelle Alfred Dreyfus. Je suis polytechnicien, capitaine d'artillerie. J'ai mon frère, tu es mieux placé que quiconque pour savoir que jamais, tout au long de ma carrière, le fait d'être d'origine juive ne m'a posé le moindre problème. Je suis un officier français. C'est tout.
De son côté, le 25 septembre 1894, au moment précis où est intercepté le bordereau, le capitaine Dreyfus est affecté par circulaire ministérielle au 39e régiment d'infanterie. Début octobre, le jeune officier français s'apprête à prendre ses fonctions, sans se douter une seule seconde de ce qui se trame dans son dos. Le 11 octobre, le commandant Dupaty de Clam est chargé d'une mission par le chef d'état-major, le général de Boisdeffre.
Dupaty, vous allez procéder à l'arrestation de Dreyfus, mon cher. Vous entrerez dans l'histoire avec un grand H.
Eh bien, je me soumets à l'intérêt de la patrie.
Un peu avant le 15 octobre, il y a eu une réunion.
L'historien Philippe Auriol.
Et lors de cette réunion, tout le monde est présent. Il y a les chefs et sous-chefs d'état-major, il y a Cochefer, le chef de la sûreté, il y a Dupaty de Clam, il y a tout le monde. Et une idée est donnée, qu'on a toujours attribuée à Dupaty de Clam, mais qui en fait est de Cochefer, qui est d'organiser une séance hallucinante, à vrai dire, qui est une vraie scène de mauvais théâtre, où on va convoquer Dreyfus à une pseudo-inspection, en civil, en tenue bourgeoise, comme on dit à l'époque, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que l'idée c'est de le sortir déjà de l'armée, et on va le soumettre, en prétextant une blessure à la main, à une scène où on va lui dicter une lettre, qui est une lettre qui reprend un certain nombre de termes du fameux bordereau exhumé de la corbeille à papier de l'ambassade d'Allemagne. Et l'idée, c'est que lors de cette séance, inévitablement, le traître va se confondre. Alors, cette scène est une scène de théâtre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'arrestation de Dreyfus est déjà bouclée. Et tout est prêt. Tout est prêt depuis le 12. Depuis le 11 même. Donc, 4 jours avant, tout est prêt. On sait déjà dans quelle cellule Dreyfus va être au cherche-midi. Donc, quelle que soit son attitude lors de cette scène de mauvais théâtre, on sait déjà que Dreyfus sera arrêté.
Alfred Dreyfus, dans 5 années de ma vie, 1901.
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air soucieux.
Pas vraiment soucieux, non. Plutôt étonné.
Le samedi 13 octobre 1894, j'ai reçu une note de service m'invitant à me rendre, le lundi suivant à 9h du matin, au ministère de la guerre pour l'inspection générale. Il y était expressément indiqué d'être en tenue bourgeoise.
Qu'y a-t-il d'étonnant ?
Tenue bourgeoise ? Tout à fait inhabituel.
Alfred. Toujours ta manie du détail. Pour une fois que l'armée fait preuve d'un peu de fantaisie, on ne va pas se plaindre.
Si. Dreyfus est convoqué à cette inspection, voilà, c'est curieux. Et il arrive à l'état-major, où il est introduit par le commandant Picard, qu'il fait patienter dans son bureau. Il fait froid ce jour-là, et c'est important.
Il est à l'entrée, mon commandant.
Picard, allez-y.
Tout le monde en position. Bonne chance, messieurs.
Et il entre dans une salle dans laquelle il voit du bâti de clame et des gens qu'il ne connaît pas, des civils qu'il ne connaît pas, et entre autres, donc, le chef de la sûreté, Cochefer.
Capitaine Dreyfus, en stage à l'état-major.
Après quelques minutes de conversation banale, le commandant Picard me conduisit dans le cabinet du chef d'état-major général. Mon étonnement fut grand en y pénétrant. Le commandant Dupaty vint à moi et me dit d'une voix étranglée « Le général va venir en l'attendant, comme j'ai une lettre à écrire et que j'ai mal au doigt. Voulez-vous l'écrire pour moi ?»
Volontiers, mon commandant, si cela peut vous rendre service.
Paris, le 15 octobre 1894.
Et donc Dreyfus commence à écrire. À un moment, Dupaty l'interrompt en lui disant « Mais vous tremblez ?» Il fait « Non, je tremble pas du tout. » Puis il essaye en bon militaire de trouver une explication en disant « Bah, je sais pas, j'ai peut-être froid au doigt, quoi. Il fait froid, hein, voilà. Je suis à peine en train de me réchauffer. »
Mais qu'avez-vous donc, capitaine, vous tremblez ?
Non, non, j'ai simplement un peu froid aux mains.
Faites attention, c'est très grave. Reprenons. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120.
Et tout à coup, il lui met la main sur l'épaule d'une manière absolument dramatique. C'est un vrai comédien, en fait, ce Dupaty de Clame. Il a un peu exalté le personnage. Et il lui dit, voilà, au nom de la France, je vous arrête pour haute trahison, etc., etc. Et là, Dreyfus, bien évidemment, se met dans une colère noire.
Allez-y, prenez mes clés, ouvrez tout chez moi. Moi, je n'ai rien fait. Je suis un officier français, messieurs. Quels sont les faits qui me sont reprochés ?
Avez-vous des ennemis susceptibles d'avoir falsifié les documents saisis qui ont motivé votre arrestation ?
Mais quels documents ? Et je ne me connais pas d'ennemis. Vous faites une erreur grotesque !
Il est bouleversé et en même temps atterré, il est indigné, on l'insulte. Il a tout dévoué à cette carrière militaire qui est toute sa vie. Et là, son monde s'écroule en quelques secondes. Il ne comprend pas pourquoi, parce qu'en fait, on ne lui dit absolument pas ce qu'il a fait, en dehors d'avoir trahi. Mais il ne sait pas selon quelles conditions. Il cherche à le savoir. On refuse de lui donner les informations. Et là, il est mis dans un fourgon cellulaire et on l'envoie à la prison du Cherche-Midi, où il est accueilli par Fort Zinetti, le chef de la prison, qui va lui donner sa cellule. Et j'ai retrouvé d'ailleurs les ordres de Mercier qui sont assez étonnants, puisque c'est complètement illégal, parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Personne n'a le droit de lui parler, il n'a le droit de parler à personne, il ne peut pas avoir un contact avec un papier, un crayon. Le coiffeur et le barbier ne viennent plus le voir. Donc l'idée, c'est naturellement qu'il n'ait aucun contact, mais on est aussi dans une claire optique de déshumanisation, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse croître sa barbe et ses cheveux, etc. Il ne peut pas se laver en dehors de la petite bassine qu'il a, etc., etc. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de le dégrader déjà, avant la fameuse dégradation qui aura lieu quelques temps après.
À mon arrivée dans la prison, je fus incarcéré dans une cellule dont la fenêtre donnait sur la cour des condamnés. Je tombais dans un état de surexcitation terrible. Je hurlais de douleur. Je marchais dans ma cellule, heurtant ma tête au mur. Mais quelles que fussent mes tortures, ma conscience veillait et me dictait infailliblement mon devoir. « Si tu meurs, me disait-elle, on te croira coupable. Quoi qu'il arrive, il faut que tu vives pour crier ton innocence à la face du monde. »
Alors, résumons la situation. Persuadé que Dreyfus est le traître, en raison d'une ressemblance d'écriture sur le bordereau, le général Mercier, ministre de la guerre, a signé l'ordre de son arrestation le 14 octobre 1894. Le lendemain, le jeune capitaine est victime d'un véritable traquenard, une pièce jouée d'avance à la limite du grand guignol. Dans la foulée, Alfred Dreyfus est incarcéré à la prison militaire du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement de Paris, et il est mis au secret, au mépris de toutes les règles de la justice. Et puis, ce n'est pas tout.
Monsieur, vous désirez ?
Merci.
Madame ?
Commandant du petit de Clam. Madame, je suis désolé, votre mari vient d'être arrêté. Je suis chargé de perquisitionner votre appartement.
C'est absurde, il y a forcément une erreur. Qu'est-il arrivé, Alfred ?
Votre mari est vivant. Je ne peux rien dire de plus. Commencez la perquisition. Non, je vous en prie, madame.
Au même moment, donc, du petit Clam et les enquêteurs se précipitent au domicile du couple.
L'historien Vincent Duclair.
Lucie Dreyfus ne comprend pas, il y a une perquisition, et on lui intime l'ordre de ne rien dire. Et donc Lucie ne pourra rien dire de ce qui se passe jusqu'au moment où l'information de l'arrestation d'un officier juif est révélée par la presse antisémite, en particulier les libres-paroles de Drumont.
En effet, après 15 jours d'incarcération dans le plus grand secret, certains officiers de l'état-major décident d'informer la presse de l'arrestation de Dreyfus.
Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette information ne sera pas livrée à l'agence Havas ou à l'agence nationale, l'AFP de l'époque, si on veut. Elle ne sera pas livrée non plus aux journaux dits de référence, c'est-à-dire le Temps, qui va devenir le Monde plus tard, le Figaro ou le Journal des débats, mais elle va être livrée au journal antisémite d'Edouard Drumont, qui s'appelle La Libre Parole.
Lettre du 28 octobre 1894, reçue par Papillot, rédacteur de La Libre Parole. Mon cher ami, je vous l'avais bien dit, c'est le capitaine Dreyfus, celui qui habite 6 avenue du Trocadéro, qui a été arrêté le 15 pour espionnage et qui est en prison au Cherche-Midi. On dit qu'il est en voyage, mais c'est un mensonge, parce que l'on veut étouffer l'affaire. Tout Israël est en mouvement. À vous, Henri.
L'arrestation de l'officier juif Dreyfus est publiée le 1er novembre dans La Libre Parole, journal ouvertement antisémite. Cette fuite autorise enfin Lucie Dreyfus à rompre le silence qui lui était imposé. Et elle prévient aussitôt Mathieu, le frère d'Alfred.
Mathieu Dreyfus, dans « L'affaire telle que je l'ai vécue », publié en 1978. Le 31 octobre 1894, j'étais, comme tous les mercredis, à la Bourse de Mulhouse, lorsqu'on me remit une dépêche. Ma belle-sœur Lucie me priait de venir de suite à Paris pour affaires extrêmement urgentes. En quelques mots, et chaque mot était un terrible coup de massue. Elle m'apprenait qu'Alfred était en prison depuis le 15 octobre, accusé de crime de haute trahison. Je fus anéanti. Mon frère, l'honneur même, en prison, accusé de haute trahison.
Je vous les prends tous.
C'était épouvantable.
Quand le petit Fred, comme dit Mathieu Dreyfus, a été arrêté, Mathieu a changé de vie.
Mais enfin, tout ça est absurde, Lucie.
Il n'a plus qu'une obsession.
Il faut que je comprenne le déroulement de cette folie.
Qui est d'arriver à trouver, sinon le véritable coupable, en tout cas les preuves de l'innocence de son frère. Il a une usine, Mathieu, dont il ne s'occupe plus, il l'a confiée à quelqu'un. Il ne voit quasiment plus sa famille, il est marié avec Suzanne, il a des enfants, il n'a pas le temps en fait, parce qu'il poursuit toutes les pistes qu'il peut poursuivre. Et en fait, Mathieu commence à organiser les recherches, il y a des moyens dans la famille. La famille Dreyfus est une famille riche et va investir, on va dire, le mot est curieux, beaucoup d'argent pour mener les enquêtes. Il y a des agents qui sont payés par la famille et qui cherchent partout pour essayer de trouver qui est le véritable coupable, de trouver les preuves, d'essayer de faire parler. Dreyfus propose même, par exemple, de trouver une femme de mœurs légères qui pourrait être mise dans les pattes de l'attaché militaire pour le faire parler sur l'oreiller, etc., etc. C'est ce qui va permettre d'ailleurs à Dreyfus de tenir jusqu'au bout. C'est l'idée aussi de savoir que cette famille très unie et très forte va continuer, quoi qu'il arrive, et ne va jamais, jamais arrêter de chercher.
Capitaine, je vous apporte du bouillon. Il faut vous nourrir, capitaine. Si vous voulez résister, prouvez votre innocence.
Nous sommes alors début novembre, et le gouvernement décide d'ouvrir une instruction judiciaire, confiée aux militaires, et notamment au commandant du paty de Clam, qui multiplie les interrogatoires de manière obsessionnelle.
Déclaration du commandant du paty de Clam lors du conseil de guerre de 1894. En interrogeant le capitaine Dreyfus dans sa prison, j'ai attendu le moment où il avait les jambes croisées. Puis, je lui ai posé à brûle-pourpoint une question qui devait faire naître l'émotion chez un coupable. J'avais les yeux fixés sur l'extrémité du pied de la jambe pendante. Le mouvement, presque imperceptible auparavant de l'extrémité du pied, s'est trouvé tout à coup, au moment de la question, très sensible à mes yeux. Donc le pouls s'accélérait, le cœur battait plus fort. L'émotion de Dreyfus trahissait sa culpabilité.
Tout au long du mois de novembre, Dupaty de Clam tente de faire craquer Dreyfus. Il use de tous les moyens, y compris surgir dans sa cellule au cœur de la nuit.
Dreyfus, avouez. Avouez, nous savons tout, avouez.
C'est une enquête judiciaire menée uniquement à charge et jamais à décharge.
Le mécanisme est celui d'un prévenu désigné comme coupable. Et la certitude que Dreyfus est coupable amène à repousser toutes les preuves qui innocentent Dreyfus et qui sont massives puisque Dreyfus est innocent. Insistons sur le fait que tout le développement de l'affaire repose sur un mépris des preuves, un mépris de la recherche de la vérité, et puis ce dossier qui est un dossier à charge, mais fabriqué contre Dreyfus.
Néanmoins, et c'est très important, que préconise le commandant du paty de Clam à la fin de son enquête ?
Eh bien, ce qu'il préconise donc, c'est l'abandon des poursuites, parce qu'il n'avouera jamais et qu'en fait, ben, en dehors d'une ressemblance d'écriture, qui est manifeste, hein, il y a une ressemblance d'écriture. À vrai dire, beaucoup d'écritures de la fin du 19e se ressemblent aussi. On a appris à l'école à faire des pleins et des déliés. Hein. Et c'est vrai que l'écriture de Dreyfus est proche de celle du bordereau. Maintenant, si on veut faire l'effort de regarder attentivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Les doubles S ne sont pas faits de la même manière, les A majuscules ne sont pas faits de la même manière, les S majuscules ne sont pas faits de la même manière, etc., etc. Voilà, donc lui demande d'abandonner les poursuites. Et là, son chef, donc le chef d'état-major, le général de Boisdeffre, s'y refuse absolument, en lui demandant de devenir raisonnable, lui demande de réécrire son rapport sur la base d'une trame qu'il lui donne, et du paty de Clam aboutit à ce qu'on attend de lui, en ne fermant pas complètement la porte et en disant que c'est au conseil de guerre d'arriver aux conclusions qui sont les conclusions qui s'imposent.
Lettre d'Alfred Dreyfus à sa femme Lucie, le 4 décembre 1894. Ma chère Lucie, enfin j'ai pu t'écrire un mot. On vient de me signifier ma mise en jugement pour le 19 de ce mois. On me refuse le droit de te voir. Je ne peux te décrire tout ce que j'ai souffert. Il n'y a pas au monde de terme assez saisissant pour cela. Te rappelles-tu quand je te disais combien nous étions heureux? Tout nous souriait dans la vie. Puis, tout à coup, un coup de foudre épouvantable dont mon cerveau est encore ébranlé. Moi, accusé du crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre. Encore aujourd'hui, je me crois le jouet d'un cauchemar épouvantable. Mais j'espère en Dieu et en la justice. La vérité finira bien par se faire jour. Ma conscience est calme et tranquille. Elle ne me reproche rien.
Le 4 décembre 1894, sur la base de l'acte d'accusation, le général Saussier signe l'acte de mise en jugement d'Alfred Dreyfus. Le capitaine doit être jugé à la fin décembre par la justice militaire. Et ce tribunal spécial s'appelle un conseil de guerre. Mais avant même l'ouverture du procès, ayez bien en tête que la presse s'est emparée de cette affaire depuis déjà 2 mois et de manière très orientée.
Quand on lit la presse, en fait, un des fondements du droit français qui s'appelle la présomption d'innocence vole en éclat complètement.
Philippe Auriol.
C'est-à-dire qu'avant même ce procès qui doit se tenir très probablement à la fin du mois de décembre, la date n'est pas encore fixe à cette époque-là, l'affaire du capitaine Dreyfus est réglée dans la presse. Les journalistes font un travail assez étonnant, à vrai dire, récupérant, alors on parle de fake news aujourd'hui, mais alors bon, elles ont toujours existé, les fake news existent depuis que la presse existe, c'est pas une critique, c'est une réalité. Réalité. Et voilà, alors pendant l'affaire Dreyfus, on est dans un délire absolument fou, et donc on a des articles qui paraissent absolument tous les jours, puisque la presse ne parle que de ça, c'est l'affaire du moment, bien évidemment, et le problème est réglé avec des témoignages bidons qui sortent dans tous les sens, etc., des gens qui ont vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, et voilà, et on s'en sort absolument pas. Et donc c'est vraiment réglé. Et on va avoir d'ailleurs quelques journalistes qui vont s'inquiéter de cette réalité-là en disant mais c'est pas possible en fait de faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit déjà, déontologiquement, même si les chartes ne sont pas encore là, mais déontologiquement, on ne peut pas régler un problème de justice avant que la justice ait parlé. Quoi. C'est pas notre rôle à nous. Et la presse sera vraiment dans cette optique-là.
Vous lisez les journaux, n'est-ce pas messieurs? Une campagne se développe dans la presse qui me semble salutaire, patriotique. Elle ne peut que conforter l'armée dans sa cohésion nationale en écartant les intrus, les Français douteux.
C'est intéressant, bien évidemment, parce que vous vous doutez que les juges militaires, hein, puisqu'à l'époque, il y a 2 justices, une justice civile et une justice militaire, on imagine bien que les juges militaires lisent la presse aussi, bien évidemment. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, tout le monde lit 5, 6, 7, 8 journaux qui sont de bords différents, etc. Donc, bien évidemment, les juges ont lu aussi cette presse-là. Et pendant 2 mois, ils ont lu des articles qui ne cessent de parler de la culpabilité d'un homme qui est innocent. Mais ça, à la limite, ils ne le savent pas. Donc déjà, ils sont prévenus. Et ils sont d'autant plus prévenus que le général Mercier, qui est quand même inquiet, puisque je pense que lui sait que Dreyfus est innocent quand même. Et donc, inévitablement, le procès, surtout que cet homme ne veut pas avouer, ce Dreyfus s'obstine à ne pas avouer le crime qu'il n'a pas commis, risque de partir en capilotate complet. Donc, ce qu'il décide de faire, c'est d'aller donner des interviews aux journaux, entre autres au Figaro et au journal, dans lesquels il jure sur son honneur et sur son uniforme, ce qui n'est pas une moindre affaire à l'époque, l'armée jouissant d'un prestige absolument fabuleux, que celui qui va être jugé, et qui n'a donc pas encore été jugé, est coupable.
Déclaration du général Mercier au rédacteur militaire du Figaro le 28 novembre 1894. On a dit que le capitaine Dreyfus avait offert des documents secrets au gouvernement italien. C'est une erreur. Il ne m'est pas permis d'en dire davantage, puisque l'instruction n'est pas close. Tout ce que l'on peut répéter, c'est que la culpabilité est absolue. Certaine.
À partir du moment aussi où le chef de l'armée, le ministre général de la guerre, prend une telle position, difficile pour des juges militaires qui vont se réunir après et dont le premier devoir est l'obéissance, d'aller contre ça.
Quand on vous écoute, là, Philippe Auriol, comment dire, le général Mercier est extrêmement responsable, voire coupable de ce qui s'est passé.
Dreyfus l'appellera plus tard le criminel en chef. Voilà. Alors, c'est pas le pire, parce que Boisdeffre et Gonse ont une responsabilité colossale dans cette affaire, mais Mercier est effectivement celui qui fait l'affaire Dreyfus, et qui après alimentera l'affaire Dreyfus, puisqu'on le verra réapparaître plus tard, et qu'il deviendra une sorte de chef d'orchestre de l'accusation, en alignant mensonge sur mensonge et surinterprétation sur surinterprétation.
Le procès approche, et le général Mercier, ministre de la guerre, n'est pas dupe. Le dossier Dreyfus est très mince, puisqu'il ne contient que des expertises d'écriture, et par ailleurs, le capitaine n'a rien avoué. Le risque est donc grand de voir Alfred Dreyfus acquitté par le Conseil de guerre. Le ministre et son état-major vont alors jusqu'à réunir de faux documents pour s'assurer de la condamnation du traître.
Ce qu'il décide de faire, le ministre, c'est de constituer un dossier secret, qui est un pauvre dossier dans lequel il y a 4 papiers et qui sont des papiers qui n'ont rien à voir. Mais peu importe en fait qu'ils aient à voir, puisque l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que le général, ministre de la guerre, qui transmet à ses subordonnés, dont le plus haut gradé est colonel, un dossier dans lequel il y a les preuves de la culpabilité, ça s'appelle, Zola a raison dans J'accuse, un ordre de condamnation. Donc en fait l'affaire est réglée, et on sait aujourd'hui d'ailleurs par un des juges qui a témoigné, Freistatter, que ce dossier sera à peine entrouvert, parce que c'est pas la peine en fait. On a les preuves de la culpabilité, des preuves trop graves pour être montrées pendant le procès et qui donc doivent être montrées au moment du délibéré. Et c'est doublement grave d'un point de vue purement juridique. Pourquoi ? Parce que, un, le principe du contradictoire qui fonde un procès pénal n'est pas respecté, c'est-à-dire que toute pièce doit être discutée par toutes les parties, et là il n'y a que l'accusation qui voit les pièces et pas la défense, c'est inimaginable de faire ça, et puis surtout il y a cet ordre de condamnation dans le fait de transmettre ce dossier, voilà. Et donc, sur la base de tout ça, en fait, Dreyfus va être condamné pour un crime qu'il n'a pas commis.
Garde à vous ! Mortez ! Oh ! Le conseil de guerre.
La première audience du procès Dreyfus, devant le conseil de guerre de Paris, a lieu le 19 décembre 1894.
L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé.
Et dès le premier jour, le conseil de guerre donne le ton.
Le tribunal militaire à l'unanimité s'est prononcé pour une audience à huis clos.
Un tribunal militaire a une vraie possibilité.
C'est une infamie.
Qu'on rencontre moins dans la justice civile, qui est celle du huis clos. Et donc tout le procès sera mené à huis clos. Donc en fait, personne ne saura jamais rien de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, on a juste les premières heures qui sont publiques, jusqu'à la demande de huis clos du commissaire du gouvernement, et à ce moment-là, le procès est rendu dans une cave, comme le écrit un journaliste, et en plus avec un huis clos dans le huis clos, puisque le dossier secret montré au moment des délibérations crée une sorte de mise en abîme avec un huis clos dans le huis clos, donc voilà.
La justice militaire choisit de se soustraire au regard public, ce qui nimbe immédiatement le procès d'un épais brouillard. Cela dit, le capitaine Dreyfus jouit tout de même d'un droit fondamental de la défense.
Dreyfus a un avocat, maître de Manche, qui est un des ténors du barreau de l'époque, très 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 grand avocat, qui est catholique, qui est un catholique fervent, et qui met comme condition tout de suite, quand il reçoit Mathieu Dreyfus, qu'il regarde le dossier, et que si jamais il trouve la moindre chose curieuse, il ne le défendra pas. La seule possibilité pour lui de défendre Dreyfus, c'est d'être convaincu de son innocence. La lecture du dossier ne durera pas très longtemps. Et donc effectivement, il décidera de le défendre, mais en ayant dès le début du procès le sentiment que de toute façon ce procès est joué. Puisque la question du huis clos déjà ne permet pas d'eux. Donc lui essaye le mieux, il se bat d'une manière absolument incroyable, comme un lion, pour arriver effectivement à faire que ce procès soit public. Mais ce procès ne le sera jamais. Et c'est dommage, parce que si le procès avait été public, les choses eussent été différentes.
Ce procès Dreyfus se tient à Paris, au 37 rue du Cherche-Midi, du 19 au 22 décembre 1894. Que dire de l'attitude d'Alfred Dreyfus ? Durant les 4 audiences.
C'est quelqu'un de très modeste, très timide, un peu inhibé, introverti, qui est un vrai scientifique. Il est polytechnicien, il a fait l'école de guerre dont il est sorti numéro 9, etc. etc. C'est un vrai scientifique. Il part du principe que la raison seule compte et que son rôle à lui, c'est simplement de démonter les choses et de prouver son innocence.
Messieurs, fils de cette Alsace si française, il est impossible que j'aie commis cette trahison. Je réaffirme donc que je suis innocent. J'ai confiance dans la justice de mon pays.
Le spectaculaire, les grands effets, les larmes, les grands cris, etc., c'est pas son truc. Et il pense que même si jamais il fait ça, il se dégrade. Donc l'idée, c'est simplement de discuter pied à pied. Il a une voix mauvaise. Toutes les notations de ses chefs le disent. C'est un bon commandant, mais il n'a pas une voix de commandant. Et puis, c'est quelqu'un qui est un vrai militaire, très respectueux de la hiérarchie. Pendant le procès, il se tient comme il doit se tenir parce que c'est un militaire et qu'il a des plus hauts gradés face à lui. Et à côté de ça, il refuse les grands effets. Et donc, il ne fait que discuter. Et les juges auraient adoré. Ils le disent, Frestater le raconte, avoir quelqu'un qui soit un peu plus spectaculaire et qui, etc., etc. Voilà.
Après la plaidoirie de Maître de Mange et la réplique du commissaire du gouvernement, la cour se retire pour délibérer. Et c'est à ce moment-là que le procès devient totalement illégal, puisque le commandant Henri, sur ordre du ministre, transmet au juge militaire le dossier secret sans le soumettre à la défense.
Voilà, un procès complètement fabriqué, donc illégal, absolument, et surtout injuste.
Avec quel verdict ?
Avec bien évidemment un verdict de culpabilité, donc pour haute trahison.
Le premier conseil de guerre permanent de Paris a déclaré le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, coupable à l'unanimité.
Donc depuis 1948, en fait, la trahison est considérée comme un crime politique, et depuis cette époque-là, il n'y a pas de peine de mort pour la trahison. Donc en fait, Dreyfus est condamné à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée. Alors c'est un peu métaphorique, parce que pour un crime politique, il doit être envoyé en Nouvelle-Calédonie, où il a la latitude de vivre librement, à condition de ne pas sortir du territoire, et sa famille peut l'y rejoindre. Voilà, donc normalement, et lui s'attend d'ailleurs à partir à Nouméa.
Mais en effet, sur proposition du général Mercier, la loi change début janvier 1895 et Alfred Dreyfus n'ira pas à Nouméa.
Le gouvernement impose à l'Assemblée le vote d'une loi de circonstance, une loi rétroactive aussi, qui est donc de déplacer le lieu de détention des déportés politiques de la Nouvelle-Calédonie à la Guyane, précisément le bagne des îles du Salut en face de Kourou. Et sur ces îles du Salut, il y a donc un îlot extrêmement dégradé, inhospitalier, qui est l'île du Diable, donc sur lequel on reviendra.
En l'expédiant sur l'île du Diable, le général Mercier voulait s'assurer que le condamné souffrirait de conditions moins clémentes qu'à Nouméa. Le capitaine Dreyfus est donc condamné à l'unanimité à la déportation dans une enceinte fortifiée. Mais ce n'est pas tout.
Demandez la libre parole, la dégradation des Juifs Dreyfus.
Et autre chose, parce que naturellement il faut marquer les esprits, la dégradation publique, l'idée ça a vraiment été de marquer les esprits. Donc en fait, on a fait convoquer de tous les régiments de France des brigades composées de vétérans et de jeunes recrues. Nous allons marquer toutes les générations. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est aux alentours de 3000 soldats présents qui donc, dans la grande cour de l'école militaire...
Paris 7e.
Paris 7e, donc derrière les Invalides, sont placés en rectangle. Et au milieu de ce rectangle se tient le général Darras qui va commander la dégradation.
En dehors ! Portez-vous ! Stop ! Ouvrez le banc !
On a préparé les vêtements de Dreyfus, hein, on a décousu les galons et scier le sabre pour éviter une catastrophe. Imaginez si celui qui doit casser le sabre sur sa cuisse n'y parvient pas. Donc en fait, tout a été préparé. Et là, il y a un colosse, un gendarme, l'adjudant Bouxin, qui va arracher les galons de Dreyfus les uns après les autres, casser son sabre, devant donc ces 2000, 3000 militaires présents, mais aussi devant une population qui s'est amassée partout. Les appartements en face ont même été mis en location sur le matin de la dégradation et loué par des gens qui venaient assister au grand spectacle. Et voilà, et donc la population parisienne est appelée à venir assister à ça avec des gens derrière les grilles qui crient « Judas, traître, mort aux Juifs ». Et ça m'a toujours fasciné. Est-ce un singulier ou un pluriel ?
Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats, on dégrade un innocent. On déshonore un innocent. Vive la France! Vive l'armée!
Lettre d'Alfred Dreyfus à son avocat Edgar Demange, le 5 janvier 1894. J'ai tenu la promesse que je vous avais faite. Innocent, j'ai affronté le martyr le plus épouvantable que l'on puisse infliger à un soldat. J'ai senti autour de moi le mépris de la foule. J'ai souffert la torture la plus terrible qu'on puisse imaginer. Et que j'eusse été plus heureux dans la tombe, tout serait fini. Je n'entendrai plus parler de rien, ce serait le calme, l'oubli de toutes mes souffrances. Mais hélas, le devoir ne me le permet pas, comme vous me l'avez si bien montré. Je suis obligé de vivre. Je suis obligé de me laisser encore martyriser pendant de longues semaines pour arriver à la découverte de la vérité, à la réhabilitation de mon nom.
Le 5 janvier 1895, en fin de journée, après son humiliante dégradation militaire, Alfred Dreyfus est conduit à la prison de la Santé. Dans sa cellule, à quoi pense-t-il ? Peut-être s'accroche-t-il aux valeurs qui sont les siennes.
C'est un militaire. Il pourrait éventuellement considérer que puisque la haute hiérarchie lui demande d'endosser le statut de coupable, peut-être pour servir les intérêts de la nation, eh bien, il pourrait se conforter à cette demande et donc reconnaître qu'il est coupable, même s'il est innocent, mais pour servir l'armée, puisque tous ses chefs sont là pour exiger, à travers la justice militaire, que ça soit ainsi. Dreyfus refuse cela. C'est-à-dire qu'il est certes un officier, mais il est d'abord un représentant de ce qu'est la République à travers l'état de droit, l'exigence de la vérité et l'honneur. Et l'honneur, c'est de ne pas trahir et de défendre son intégrité. Donc il va choisir de se battre pour ces valeurs-là. Alors même qu'il y a une énorme pression pour qu'il avoue.
En conclusion de ce deuxième épisode, retenez d'abord qu'Alfred Dreyfus n'a pas été victime d'une erreur judiciaire. Il s'agit bien d'une machination et d'un crime d'État. Le général Mercier, ministre de la guerre, voulait débusquer un traître après l'interception du bordereau. Et l'état-major lui a dégoté un coupable idéal. Alfred Dreyfus, jeune officier juif et alsacien. Et l'acharnement fut tel que le général Mercier est même parvenu à faire changer la loi, histoire de ne laisser aucune chance de survie à Alfred Dreyfus.
Le gouvernement vient de rétablir l'île du diable comme lieu de déportation.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire qu'on va y envoyer votre mari. Le climat y est moins bon qu'à la Nouvelle-Calédonie. Il y sera encore plus isolé. Il va vous falloir être courageuse lorsque vous lui ferez vos adieux.
Le 17 janvier 1895, Alfred Dreyfus est donc brutalement transféré vers La Rochelle.
Le bateau pour la Guyane partira de l'île de Ré. C'est là que vous serez autorisé à le voir.
Comment la famille Dreyfus peut-elle défendre la cause du capitaine alors que la France entière est persuadée qu'il est coupable ? C'est l'horizon du prochain épisode. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Éric Ruff et Clotilde Debézère, sociétaire de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Prochain épisode, L'île du diable. Alfred Dreyfus, Le combat de la République, est un podcast original de France Inter.